Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. On est très heureux d'être avec vous, évidemment, ce samedi matin. Fête de la musique. Nous serons ensemble tout le week-end de 9h à midi avec ce matin Simon Dutin, Pascal Duprat, Olivier Giraud, Julien Beneteau. Dans quelques instants, le bras de fer des GG autour du cas Melvin Jaminet. 10h30, le dossier des GG. La nouvelle vie de Loïse Boisson débute avec les qualifications de Wimbledon. Dans deux jours, la numéro 1 française a été privée de wildcard d'invitation pour le troisième grand chelem de la saison. Est-ce tout simplement injuste? Vous n'êtes pas d'accord, les GG. Puis 11h, la nouvelle dimension prise par le Paris Saint-Germain, actuellement aux États-Unis, vous le savez, pour la Coupe du Monde des clubs. Battre le PSG est devenu un événement pour tous ses adversaires, à l'image de Botafogo cette semaine. Des scènes de liesse au Brésil. Le PSG est-il devenu une référence mondiale? On se posera la question. On va prendre de la hauteur parce que c'est important dans cette émission de s'élever un petit peu. Je voudrais vous citer du William Shakespeare ce matin. Je ne sais pas si vous le connaissez. En disant deux fois pardon, tu ne pardonnes pas deux fois, mais tu rends le pardon plus solide.
RMC, le bras de fer GG.
Je n'ai pas toujours fait ce qu'il faut.
Est-ce qu'il pourra rejouer en bleu? C'est aussi la question. Melvin Jaminet.
Donne-moi une seconde chance. Écoutez, moi, on m'a posé la question. J'ai dit, ça sera très compliqué.
Donne-moi une seconde chance.
Il portait quand même le coq quand il a tenu ses propos.
Donne-moi une seconde chance.
Quand on représente la France, je suis désolé, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. De mon point de vue, ça sera très compliqué.
C'était il y a quelques mois dans le studio des grandes gueules du sport avec le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Melvin Jaminet va-t-il un jour porter de nouveau le maillot du 15 de France? Cette hypothèse encore impossible à écouter et à entendre il y a quelques mois, Florian Grill, n'est plus aussi surréaliste. L'arrière des Bleus avait été suspendu 34 semaines l'été dernier après une vidéo publiée sur Instagram durant la tournée en Argentine où il proférait des propos racistes. Un an plus tard, eh bien la porte du 15 de France n'est plus aussi fermée. Melvin Jaminet, notre débat, mérite-t-il une seconde chance en bleu? Et pour la première fois dans l'histoire du bras de fer des GG, j'ai trois coins. Oui, j'ai trois coins. Dans le coin gauche, la team non.
Tant que t'en as pas cinq.
Représenté par Simon Dutin. Non, il ne mérite pas une chance en bleu. Dans le coin droit, la team oui. Représenté par Olivier Giraud et Pascal Duprat. Dans le coin suisse. Dans le coin ne se prononce pas. Dans le coin
Denis Charvel.
Elle n'est pas facile, ta question.
Dans le coin rond.
Julien Beneteau qui a beaucoup de problèmes à répondre à cette question, mais il va vous expliquer pourquoi. Évidemment, sachez qu'on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport et c'est extrêmement serré. Nous sommes à 51-49.
C'est compréhensible.
51% oui, il mérite une seconde chance. 40% non. 49% non. Simon, tu commenceras donc ce bras de fer. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport qui suit évidemment le 15 de France, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut les grandes gueules, salut à tous.
Le retour de Melvin Jaminet, Fabien Galthié, le sélectionneur, ne dit clairement pas non.
Oui, on en est encore quand même loin, mais en effet, le sélectionneur a ouvert une petite porte dans les colonnes du Midi Olympique. Les circonstances font qu'il n'est pas candidat à l'équipe de France, dit-il. Cela peut évoluer, je crois, à la rédemption, à la deuxième chance. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas. L'arrière toulonnais est donc encore loin d'un retour. Pour rappel, après ses propos à caractère raciste, tu le disais, JC, il avait écopé de 34 semaines de suspension, dont 8 semaines qui ont été transformées en travaux d'intérêt généraux et de 30 000 euros d'amende. Pour le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, c'est impossible à l'heure actuelle de le reconvoquer en bleu.
Vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis aussi de tous les clubs qui bossent en quartier prioritaire de la ville, ça sera compliqué de le faire revenir en équipe de France. Parce qu'il faut quand même voir que quand tu portes le coq, tu as une responsabilité et tu as un devoir d'exemplarité.
Mais l'arrière toulonnais a accepté de baisser la tête, de purger sa peine sans faire de bruit. Et ça, Florian Grill le salue.
Après, je veux quand même saluer Melvin. Il a assumé la sanction. Il n'a pas fait appel. Il a joué parfaitement le jeu, d'assumer aussi les travaux d'intérêt généraux qui lui étaient proposés dans le cadre de la sanction. Et je peux te dire qu'il a été à Fréjus, où on rassemblait les élites jeunes. Son intervention a été particulièrement remarquée sur le fait de s'engager vraiment pour lutter contre les propos qui avaient été tenus et pour expliquer à des plus jeunes pourquoi il fallait pas déraper. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant, c'est pas simple. Mais franchement, il est sur un chemin qui est intéressant.
Reste à voir si ce chemin intéressant le mènera jusqu'à un retour en bleu. Depuis son retour avec Toulon en février dernier, il monte en tout cas en puissance et il sera l'un des principaux atouts des Rouges et Noirs ce soir en demi-finale de Top 14 face à Bordeaux.
Merci beaucoup Pierre Thévenet pour toutes ces précisions. Melvin Jaminet mérite-t-il une seconde chance en bleu? Le 32-16 de hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, c'est le bras de fer des GG. Pourquoi non Simon Dutin?
Tu parlais des marronniers dans notre profession tout à l'heure, donc je vais m'appuyer sur un poncif, le... sempiternel devoir d'exemplarité. Voilà, on parle pas de son club, son employeur privé fait bien ce qu'il veut, monsieur Lemaître à Toulon avec Pierre Mignoni, s'ils ont voulu le réintégrer, grand bien leur fasse. Le devoir d'exemplarité, le président Gril le rappelle. Voilà, le coq, le maillot de l'équipe de France. Voilà, tu représentes une nation, liberté, égalité, fraternité, qui se débat déjà suffisamment avec ses problèmes au quotidien. Il y a un immense travail de pédagogie, d'éducation. Il faut tout reprendre à la base dans les écoles. Et je te parle même pas des clubs de sport. Je te parle des gamins dans les écoles. On va nous dire oui, alors encore heureux qu'il a accepté sa sanction. Je veux dire, c'est indéfendable parce que je sais qu'on va m'évoquer le cas de Chalureau, tu sais, qui avait été condamné en première instance pour avoir prétendument tenu des propos racistes, tu sais, au cours d'une rixe nocturne. Alors lui, il avait nié, mais il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de... Jaminet, il s'est filmé, il a diffusé ça sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est indéfendable. Il peut pas dire oui, c'est pas ça que je voulais dire, c'est machin. Et en plus, la timide justification de ça, c'est oui, alors on ne dit pas qu'il était bourré, mais bon, il était en fin de soirée, vous savez, un peu fatigué. Donc c'est absolument indéfendable. Il a fait une bêtise. Il paye, mais tu peux pas réintégrer dans l'équipe de France un mec qui a tenu ces propos-là. C'est injustifiable. Les partenaires, on s'en fout à la rigueur. Il y a le grand public qui a besoin de s'identifier. Il y a le
public, ça peut être un
qui
exemple,
a besoin d'être fier. Simon. Mais la rédemption a ses limites. La rédemption a des limites, Pascal. Simon. J'entends bien. Et je demande pas qu'on l'interdise.
Quand il interdit un discours politiquement correct.
Oui, oui, oui. Et c'est pas mon genre. Si tu me connais, Pascal, c'est pas mon genre. Mais il y a des sujets. Il y a des sanctuaires. Il y a des sanctuaires dans la moralité. Il y a des sanctuaires qui, je pense, protègent notre société. Et si on cède, si on laisse ces digues,
ça protège rien du tout. Ça protège rien du tout.
En tout cas, on servira pas la cause en disant ah c'est pas
cela
grave,
dit,
on
Simon, c'est pas le grave, sport payé, est toujours okay. cité en exemple.
Pascal.
Le sport est toujours cité en exemple. Tu parlais de la société fracturée et j'emboîte le pas. Je suis d'accord avec toi. Mais s'il y a bien un lieu qui est encore préservé en France, c'est bien celui-ci où le sport depuis tout gamin, on s'en fout avec qui on joue avec des copains. Et il se trouve que ça peut être un exemple ou un contre-exemple, à savoir, comme l'a très bien dit le président de la Fédé, il se trouve qu'on peut récupérer, à condition, et ça semble être le cas, que Melvin Jaminet en soit d'accord, on peut récupérer cette bourde monumentale pour en faire ensuite un porte-parole de ce qu'il ne faut pas suivre et de d'accepter comme pour tout un chacun le principe de la seconde chance et de la rédemption. Ça permettra aussi de manière encore plus significative à Melvin Jaminet d'aller dans les clubs et de prôner une tolérance exacerbée. Donc si tu lui coupes l'herbe sous le pied, à condition bien sûr que sportivement il soit au niveau pour prétendre à amener quelque chose à l'équipe de France, il faut lui permettre de revenir.
Mais moi j'ai pas envie de faire de Melvin Jaminet un porte-parole de la lutte contre le racisme. Il sera jamais plus crédible à ce titre-là. Et j'entends évidemment la rédemption, la seconde chance. Mais je pense que la meilleure façon d'utiliser cette affaire, c'est justement de dire ben vous voyez, quand on tient des propos aussi scandaleux que cela, et surtout
alors il faut le faire à chaque fois, et dans chaque sens. À chaque fois et dans chaque sens à ce moment-là.
Que ça fasse jurisprudence.
Je prends l'exemple du foot.
Il est jamais trop tard.
Quand il y a une journée pour les LGBT et que tu as des joueurs de foot qui gagnent des saladiers, qui ont prétexte de venir nous parler de domaines qui n'ont pas lieu d'être dans le football, refusent la photo, alors il faut les sanctionner de la même manière que Jaminet. Puisque c'est bien sûr du racisme ou comment dire. De l'exclusion.
Oui, parce que je suis d'accord, mais
on n'en finit pas. Non, on n'en finit pas.
Non, parce que là, le problème, c'est que ça concerne les clubs sur la journée de Ligue 1.
Qu'est-ce que ça a à voir, club et équipe de France, s'il vous plaît, les enfants? Interrogeons tous les sélectionnés du rugby en France. Tous les sélectionnés, tous ceux qui partent faire la tournée. Demandez-leur s'ils voudraient que Jaminet revienne. Je suis sûr qu'à 100%, ils disent oui.
Il dirait oui.
Alors, à 100%, ils disent oui.
Olivier Giraud, je vais prendre la main.
C'est un sujet que j'ai toujours refusé d'avoir. Mais on va l'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sujet Jaminet, on va en parler franchement, et on va arrêter l'hypocrisie de la moralité, s'il te plaît Simon. Le truc, l'hypocrisie de la moralité, parce qu'en fait, il y a la différence entre les propos et les actes. Il faut le vivre aussi au fond de sa chair, ces choses-là. Tu vois, quand tu parles de quartier prioritaire de la ville...
C'est pas moi qui en parle.
Non, j'entends le président en parler. C'est l'endroit où on donne le plus de seconde chance. C'est l'endroit où on dit à des jeunes, ouais, vous avez fait ça, mais vous pouvez réussir quelque chose derrière. Et là, t'es en train de me dire que Jaminet, par contre, lui, il a pas le droit à de seconde chance.
Écoute, on parle pas des mêmes faits.
On en a parlé tout à l'heure. J'ai joué en équipe de France, j'ai joué en club, dans un sport collectif. Tu sais pourquoi j'ai jamais voulu que la politique, et je me bats pour ça, et je combats pour ça, que la politique, ce type de politique moralisatrice. Rentre dans le sport, justement parce que dans le sport, quand tu arrives dans une équipe, tu sais pas qui est le mec qui est à côté de toi. Tu sais pas quelle est sa sensibilité. Mais par contre, tu te rejoins sur un truc et tu découvres des choses de l'autre. Même si le mec, il a une pensée sur toi, eh ben, j'ai réussi à aimer des mecs qui, à la base, avaient des pensées à l'opposé de la mienne. L'opposé de la mienne. Et donc, quand tu exclus Jaminet, ça veut dire qu'à jamais, ce mec-là, tu le cornérises. Et que là, ce qu'il est en train de faire, et oui, peut-être, c'est d'aller dans ces quartiers, aller discuter, et que peut-être ça change quelque chose. Se dire que la deuxième chance, heureusement que dans le sport on peut la donner. Heureusement que dans le sport on peut la donner. Et moi je te le dis personnellement, ouais, je lui donne sa deuxième chance à Jaminet. Évidemment que je lui donne. Et c'est le meilleur exemple, et ça sera le meilleur porte-parleur parce que il va le porter au milieu de sa chair maintenant. Donc c'est quelqu'un à qui il faut donner une deuxième chance, évidemment.
Ok, est-ce que Julien Beneteau, tu arrives à te situer après ce que tu as pu entendre ?
Non, enfin pour moi c'est très compliqué parce que je suis un peu plus tendance Simon parce que et quand j'entends le président de la fédération, ça me parle de voilà l'exemplarité pour l'équipe nationale.
Il sait ce que c'est le racisme, le président. Et j'adore les gens qui parlent de racisme ils savent même pas ce que c'est.
Micro.
Alors j'en viens Olivier, parce que effectivement je sais pas ce que c'est le racisme parce que j'ai jamais été victime de racisme. J'ai jamais été victime moi personnellement de racisme anti-blanc.
Et tant mieux.
Et tant mieux, etc.
Et quand
je vous écoutais, il y a Rabah Slimani qui joue cet après-midi pour l'équipe de France. Ben en fait, je me disais, ben moi, ce que je souhaiterais, si j'étais dans le milieu, c'est au rassemblement, de voir une explication que Rabah Slimani demande à Jaminet, pourquoi t'as tenu ces propos, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'il s'explique, et de voir comment lui s'est senti meurtri, Rabah Slimani éventuellement, ou d'autres de la même origine, et Jaminet, de voir, quelle est sa défense, mais... Comment il explique ces propos-là, au-delà de 4 heures du matin et de l'alcool? Pourquoi il est amené à dire ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, comme tu dis, Olivier, en fait, je me pose cette question parce que je ne suis pas victime de racisme. Je ne suis pas victime de, comment dire, de cornérisation. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de...
T'as de la chance.
J'ai beaucoup de chance.
Je viens de dire que t'as beaucoup de chance.
Mais j'ai beaucoup de chance. Mais j'en suis conscient. Et parfois, j'essaie de me mettre à la place de personnes qui, quand ils croisent d'autres personnes, il y a un regard différent. Il y a une expression. Et je ne sais pas comment on peut réagir dans ces moments-là.
On doit combattre un truc.
Donc, il faut combattre tout.
Ce qu'on doit combattre, surtout, et on parle d'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est ça aussi. L'exemplarité, c'est que le sport n'est pas comme dans tous les domaines. Ça veut dire que, non, on n'exclut personne. Et surtout pas Jaminet. C'est-à-dire que ne commençons pas à se faire embarquer par des gens qui, pour des raisons politiques, veulent embarquer les sportifs qui, eux, se concentrent sur ce qu'ils font, sur les actes. Parce que c'est ça qui se passe.
Non, mais moi, je te demande pas de lui interdire de pratiquer son sport, encore une fois.
Moi, je le prends en équipe de France.
On peut différencier la sphère privée.
Ça m'amène à une question, Olivier, très, très cash, très direct. Est-ce que toi, tu as déjà aimé jouer avec des joueurs où tu pensais qu'ils pouvaient être racistes?
Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai découvert des parties d'eux qui étaient extraordinaires. Ils ont découvert des parties de moi, certainement, qu'ils ont aimées. Et je les ai aimées, ouais. Ouais. Et des mecs qui étaient...
Tu les as pris à rebrousse-poil, en fait.
Non, mais c'est surtout, on a appris à se connaître.
Ouais, oui.
On a appris à se connaître parce qu'on n'avait pas le choix. On était dans la même équipe. On a appris à se connaître.
En fait.
Et que je pense que sa vision aussi sur un monde que tu ne connais pas, elle a évolué parce qu'on est en train
de... Je vais plus loin, Olivier, et après je vous donne la parole, les amis. Si Melvin Jaminet fait du hand, si Melvin Jaminet est dans ton équipe de France, okay, il est avec toi pour disputer les Jeux Olympiques. Il vient de tenir ses propos. Il arrive dans le vestiaire. Il se passe quoi?
Il se fait secouer. Il se fait secouer par les joueurs.
Mais il arrive seulement quand il a été suspendu aussi, quand il a purgé sa peine.
Et puis il souffre un petit peu en championnat aussi. On le suspend pas, il faut qu'il joue. Et il souffre un petit peu en championnat.
Mais tu l'acceptes.
Oui, je l'accepte.
Olivier, ouais, mais d'accord, tu l'acceptes après coup, mais t'es sélectionneur de l'équipe de France. Il y a les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques, un soir au village olympique, en rentrant dans sa chambre, il tient ces propos-là.
Écoute, tu
l'excuses de la compétition.
Écoute, je vais te dire un truc, c'est que quand je prends quelqu'un, je le prends dans son entièreté. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est parfait. C'est-à-dire que si le mec, 90% de ce qu'il fait est bien, et qu'il sort un propos où il est un peu bourré, tu vas exclure tout ce qu'il a fait de bien sur un propos. Je pense pas que je suis pas d'accord avec vous.
En compétition, pendant l'équipe de France. Là, tu me dis que
c'est une hypocrisie. Ça veut dire que tu sais quoi? Des propos. J'en ai entendu 60 000. C'est quoi? Moi, je viens d'une génération, quand j'ai commencé le handball, quand j'arrivais dans le vestiaire, on me disait, non, mais toi, c'est pas pareil. C'est le plus gros propos raciste que tu peux entendre quand t'es de la diversité. Eh ben, ceux-là, on l'a pris. Mais par contre, ce qu'on leur a appris, c'est qu'on était beaucoup plus que ça.
Mais encore une fois, tu te places, et c'est bien normal, au vu de la carrière de haut niveau que tu as faite.
J'en ai vu des trucs.
Par le prisme des joueurs, de ses coéquipiers, on sait qu'il y a une camaraderie dans le rugby. Galtier, il avait défendu Chalureau. Galtier, il est en train d'ouvrir la porte pour Jaminet. Il y a cette espèce d'esprit de corps, de groupe, et on va nous vendre Jaminet, c'est un bon gars, il a dérapé un soir. Je pense que
c'est un bon gars, Simon.
Mais je te dis pas que c'est un mauvais gars. Je te dis qu'il a fait.
Je pense que c'est un mec qui a fait
une bêtise suffisamment grosse qui engage l'image que renvoie le 15 de France de notre nation. De notre vivre ensemble, de la façon dont les gens cohabitent dans ce pays, et le sport est suffisamment cité, on le répète à longueur d'émission ici, comme étant le reflet, le miroir de ce qu'est notre société, pour que lorsque, et encore une fois Olivier, tu parlais de la seconde chance qui est donnée dans les quartiers, et y a pas, on n'en donne pas plus ailleurs, oui certes, mais on en donne pour un mec qui a braqué parce qu'il avait faim, qui a volé parce qu'il n'avait pas d'argent, qui a agressé. Là,
qu'a tué parce qu'il n'avait pas de parents.
Il y a des sanctuaires de moralité. Ben écoutez, chacun sa sensibilité. Il y a quelques sanctuaires de moralité qui, pour moi, sur lesquels il ne faut pas transiger. Je vous dis pas qu'il faut lui interdire, qu'il faut le mettre en prison. Il a payé, il s'est excusé, très bien. Mais porter le maillot qui représente notre pays, je pense que quand on a tenu des propos aussi spontanés et aussi racistes, je pense qu'on a le droit de se passer d'un joueur comme ça.
Je vais donner un exemple de vrai racisme, parce que ça, ce n'est pas... Arrêtez, c'est pas du racisme.
C'est pas du racisme.
Non, arrêtez ça. J'ai joué en Serbie. Je vais t'expliquer ce que c'est du racisme. J'ai joué en Serbie, où, en fait, quand je jouais, il fallait que je me tourne parce que tous les spectateurs me crachaient dessus. Et on jouait, on allait gagner les matchs là-bas. Où les mecs faisaient des cris de singe, mais volontairement, ils nous crachaient dessus, ils nous balançaient des trucs, avec des termes beaucoup plus... dur que cela. Tu sais ce qu'on a appris à ces gens-là avec notre équipe de France, c'est que on affrontait tout. Et ben tu sais ce qu'on faisait après derrière, et ben on allait dans la ville à Zagreb et on allait boire un coup. Et ben ils ont appris à nous respecter. Je peux te le dire, ils ont appris à nous respecter. Nous on fait pas les pleureuses. Donc moi ce que je veux c'est qu'on discute. Ce joueur-là, moi je veux qu'il joue. Je veux qu'il joue. Je veux voir son changement. Et je suis l'opposé de toi, je n'exclus pas les gens.
Et on a très bien compris ton sentiment. Maintenant, je rappelle juste que on peut tourner la phrase comme on veut. Les propos tenus par Melvin Jaminet sont racistes.
Bien sûr.
Donc c'est du racisme.
C'est oui. ça que je veux te dire. Après, chacun met le racisme.
Le truc, c'est est-ce qu'on parle
oui, et surtout, est-ce
c'est du racisme. Et surtout, c'est pas conjoncturel, c'est pas une maladresse parce qu'il répond à quelqu'un. Il allume son téléphone, il est un peu éméché, il allume son téléphone et il tient ses propos que personne.
Sur lequel personne ne l'a interrogé. Rue de la Soif, on entendra des propos.
Oui, mais là, on parle du cas de Vinny.
C'est trop facile, ça.
Mais non, Rue de la Soif, les mecs, ils jouent pas en équipe de France.
Ouais, ok.
Bah oui, mais c'est une différence notable.
Non, ok.
C'est une différence notable.
Alors en fait, Julien, ça y est, enfin, tu t'es dévoilé, donc t'es du camp.
Mais j'ai dit que j'étais un peu plus du camp de Simon,
voilà, ça a servi
alors,
à ça au moins.
On va arrêter la consultation, les amis. C'était un débat de toute façon très intéressant à avoir ce matin dans les grandes gueules du sport. Merci à Pierre Thévenet d'avoir été avec nous. Sachez que nous sommes partis à 51-49. 51%, oui, il mérite une seconde chance. Ça a beaucoup évolué. Sachez-le, dans ce débat, nous sommes désormais à 54% oui, 54% oui, 46% non. Merci d'avoir voté pour nous exprimer votre sentiment sur le compte X des grandes gueules du sport. On va se retrouver dans quelques instants pour vous parler de Loïs Boisson et on va accueillir un invité aujourd'hui. C'est un navigateur et il a très envie de faire les grandes gueules du sport et on est très heureux de l'accueillir. Sébastien Roch dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Simon Dutin, Julien Beneteau, Olivier Giraud, Pascal Duprat et notre invité ce matin, un fidèle auditeur des grandes gueules du sport. On est très heureux de l'accueillir. Non, c'est pas toi, Eric Salio. Toi, ça arrive dans quelques instants. C'est Sébastien Roch, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, notamment en 2021. Salut Sébastien.
Salut les GG.
On est très heureux de te recevoir dans cette émission. On s'est dit qu'un jour on allait t'inviter dans cette émission. Je sais que tu apprécies particulièrement les grandes gueules du sport, à part un ou deux. Mais évidemment, on ne citera pas de nom. Et tu vas débattre avec nous ce matin. Et évidemment, on parlera de ton année 2025 parce qu'elle va être riche. Elle est déjà riche, mais surtout avec cette fin de saison. Et j'ai envie de dire cette fin d'année avec de nouveau la Transat Jacques Vabre, même si ça ne s'appelle plus comme ça. Hein.
Ouais, ils ont changé de nom. Du coup, on est perdu.
Ouais, ça s'appelle la Transat Café L'Or.
Ouais,
voilà. On reste dans le même domaine.
On change de marque de café.
Voilà, exactement. Bref, tu nous expliqueras tout ça un petit peu plus tard. Mais je sais que tu t'intéresses un petit peu à tout, à tous les sports. Là, dans quelques instants, on va parler de tennis. Ça te va, t'es bien ?
Ouais, ça va le tennis. Ma marraine fait du tennis sur l'Ocean 50, c'est Amélie Mauresmo. Et je suis bien
t'es bien renseigné et t'es parfait, forcément, si t'as comme marraine Amélie Mauresmo, ça devrait bien se passer. Oui, Olivier.
Un peu stressé, non ?
Bah attends, face à un champion olympique, comment t'as c'est
compliqué. L'équipe de Dali, non, moi, quoi.
Forcément, c'est plus difficile.
Mais tu vas voir, tu peux y aller.
C'est une famille, n'hésite pas, eux, ils vont te piquer les mollets, en tout cas, tout de suite, dès le début, avec le tennis. Alors la nouvelle star du tennis français n'a pas encore de privilèges. Loïs Boisson, époustouflante à Roland-Garros, va devoir passer par les qualifications de Wimbledon qui débutent lundi. Sa demande de wildcard a été refusée par les organisateurs qui ont privilégié des joueuses britanniques. Avec nous évidemment Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules olympiques.
Salut Eric.
C'est évidemment Eric une grosse déception pour notre désormais numéro 1 française, 67e joueuse mondiale.
Alors déception, je sais pas. Je pense qu'elle avait senti le mauvais vent venir, puisque c'est une année particulière parce que le tennis britannique est en plein essor. Ils ont beaucoup de joueuses qui avaient besoin de wildcard et c'est vrai que quand on regarde les wildcards, il y en a 4 qui sont entre la 100e et la 170e place mondiale. Donc là-bas, là-dessus, il y a pas de débat. Et puis ils ont privilégié des jeunes, des juniors, parce que ça pousse fort. Donc finalement c'est normal. Et puis la mauvaise surprise entre guillemets, c'est que Petra Kvitova, qui est une ancienne championne de Wimbledon et qui va jouer son dernier Wimbledon, avait fait une demande. Et entre Petra Kvitova et Loïs Boisson, évidemment il n'y avait pas photo. Donc elle va devoir passer par les qualifs. Alors elle aura un petit avantage, elle sera tout en haut du tableau avec le statut de tête de série numéro 1. Mais on rappelle qu'elle n'a jamais joué un match sur herbe, donc ce sera un vrai challenge.
Un vrai challenge, évidemment, tu restes avec nous pour ce débat. C'est la première question véritable sur Loïs Boisson, sur cette nouvelle carrière pour elle. Est-ce que c'est injuste, tout simplement ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Julien Beneteau ?
Pas du tout.
Pas du tout. Pascal Duprat ?
Pas le moins du monde.
Olivier Giraud ?
Ben non.
Non, j'ai l'impression que Simon va être tout seul, quoique.
Ben Simon, j'essaie de t'aider,
attends. Sébastien Roch, oui ou non ?
Ouais, moi je dirais non.
Tu dirais non aussi. Ouais. Simon, tu commences. Pourquoi oui ?
parce que on se lamente suffisamment à longueur de semaine du manque d'attractivité, du manque d'intérêt du tennis féminin. Alors j'entends Eric et on sait qu'à Wim, évidemment, on privilégie les wildcards et je crois que Raducanu en a bénéficié, non?
Raducanu, elle est dedans, il n'y a pas de souci.
Elle est dedans, elle était déjà dans le champ. Bon, bah, ce que j'allais dire, c'est ce qui brillait le plus ces dernières années dans le tennis féminin anglais. On souligne suffisamment le fait que ça manque de spectacle, d'attractivité, on s'ennuie, ça manque de tête d'affiche. Il leur faut quoi aux organisateurs de Wimbledon pour valoriser la performance de Loïs Boisson? Parce qu'au-delà du fait que nous, Français, on s'est enthousiasmés, je veux dire, c'est une gamine de 20 ans à peine qui a réalisé un exploit monumental qui a été suivi et apprécié également au-delà des frontières françaises. Tu te dis, il y a un nouveau météorite dans notre sport, dans notre discipline. Elle met des tartes en coup droit. Elle est capable de battre la numéro 3, la numéro 6 mondiale, de se hisser en demi-finale de Grand Chelem. Et t'en veux pas chez toi. Tu te dis, non, allez, on va filer les wildcards à d'autres joueuses. Je ne comprends pas comment tu peux faire l'impasse sur ce qui est de façon très objective et pas du tout parce que on est français, faire l'impasse sur une des sensations actuelles du tennis féminin mondial dans une catégorie, je le rappelle, qui manque de stars et donc d'attractivité et de spectacle. T'as envie d'avoir la sensation du dernier Roland-Garros, t'as envie de l'avoir de façon garantie dans ton tableau, point barre.
Il sert ses intérêts, Pascal Duprat,
bah oui,
pardonne-moi.
En fait, elle a jamais joué sur herbe, donc qu'est-ce que font les Anglais? Ils veulent la protéger, donc elle va s'échauffer sur herbe, en passant par les qualifs, et puis ensuite, quand elle arrivera dans le tableau final, elle aura déjà joué. Donc ce que je veux dire, c'est qu'elle est 1, 67e mondiale, 2, Simon, toi qui prône la probité, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout ça, t'es en train de me dire qu'il y a un règlement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les organisateurs, le règlement, ils le transgressent pas. Ils ont donc toute latitude de faire comme ils veulent.
Oui, oui.
Donc ils ont décidé de privilégier, en fait c'est comme une préférence nationale, si j'ai bien compris ce que disait Eric, à savoir les jeunes pousses talents anglais à Wimbledon bénéficient pour leur large majorité de wildcard. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas accès automatique. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas critiquable ce qu'ils font. Et je pense, je l'ai dit sous forme de boutade, je pense que c'est mieux pour elle, d'autant qu'elle va être tête de série, c'est ça?
Oui,
pour
numéro 1.
Qualifs. Donc numéro 1, bon, je pense qu'elle va pouvoir s'adapter et au bout du compte, ils vont faire son bien. Voilà ce que je ressens, Simon. J'ai le droit de le dire.
Ok, Julien Benneteau, on a le droit de tout dire dans cette émission, évidemment. Julien, j'ai l'impression que tu n'es ni d'accord avec Pascal, ni d'accord avec Simon, et pourtant ils ont répondu deux choses différentes.
Non, Pascal disait ça sous le ton de la boutade quand il disait que les Anglais privilégiaient les intérêts, protégeaient Loïs Boisson. Les Anglais, ils en ont rien à foutre.
Rien à foutre, bah oui.
Non, mais il faut dire ce qu'il est. Les Anglais, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils ne transgressent aucune règle. C'est pour ça que ce n'est pas injuste. Loïs Boisson n'a pas de chance. Loïs Boisson n'a pas de chance. C'est que il y a beaucoup de jeunes Anglaises là qui poussent et ils ont privilégié ça. Dans d'autres générations, il n'y avait pas d'Anglaises. Ils donnaient à des étrangers. Donc ça c'est le premier truc. Les Anglais, les organisateurs de Wimbledon aussi, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils donnent des wildcards? Ils regardent le passé que t'as sur gazon. Ils le regardent. Que ce soit à Wimbledon et sur les tournois avant sur gazon. Loïs Boisson n'a jamais joué sur gazon. Donc pour eux, quand Simon dit c'est la nouvelle craque du tennis mondial, elle a fait demi-finale, truc. Wimbledon pour eux ça c'est rien. C'est pour l'instant et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Pour l'instant, aux yeux de Wimbledon, Loïs Boisson, c'est pas grand monde. Et ils ont Coco Gauff, ils ont Sabalenka, ils ont Swiatek, enfin tout le monde est là, c'est un tour du Grand Chelem. Voilà, donc il n'y a aucune forme d'injustice, c'est un petit peu difficile. Et puis attendons, Là, je vous entends, tout le monde s'enflamme, c'est la nouvelle pépite du tennis mondial, elle va tout gagner, elle va tout
la
gagner.
La sensation actuelle. La sensation actuelle,
mais attendez, non, mais il faut se calmer. Louise Boisson, elle peut très bien perdre au deuxième tour des qualifs de Wimbledon. Et ce sera normal. Il ne faudra pas dire, ah bah c'était qu'un feu de paille. Non,
Julien,
c'est normal dans son processus.
Julien,
c'est normal
pendant
dans
Roland-Garros, tu n'as pas reçu un message d'un ancien joueur ou d'une ancienne joueuse étrangère qui te disait, c'est qui cette petite, elle est fantastique, elle est fabuleuse. T'en as parlé avec.
Non, elle est dans le microcosme du tennis français.
T'es un organisateur à Wim, tu te dis pas, ah, c'est quand même, c'est pas mal, c'est,
honnêtement, je veux
dire, ça n'a pas impressionné que les Français, ça a impressionné le monde du tennis, moi. Ouais, juste
Simon,
une petite question
pour Eric. Momentanément. Wimbledon, c'est une institution.
Une institution, mais ça veut dire quoi, une institution?
Non, mais dans ce cas-là, tu te prives. Ça veut dire que c'est bien organisé,
Julien et Eric, qui de Jody Burrage, Harriet Dar, Francesca Jones, Anna Kripal,
Mika
Stojanovic, Ezra Watson et Ming Xu, a une chance d'accéder au deuxième tour.
Je te dis, tu mets Watson Boisson au premier tour de Wimbledon ou Burrage Watson Burrage Boisson au premier tour de Wimbledon. Je suis pas sûr que Louise Boisson gagne.
Bon, Burrage, moi c'est un match que j'ai envie de voir. Burrage, on n'a pas la garantie qu'elle joue en premier tour. Je
oui,
j'ai le droit de le regretter.
D'accord, je suis d'accord pour toi Simon. Mais les Anglais ils préfèrent avoir Burrage Watson au premier tour que Burrage Boisson.
Olivier Giraud.
Je pense que les Anglais avant Roland Garros ils savent même pas qui c'est Louise Boisson. Ils savent même pas qui c'est. Et tu regardes une autre chose,
c'est
si tu...
Tu sais pas qui c'est alors non, mais
toi, t'es organisateur d'un tournoi du Grand Chelem. C'est-à-dire que l'intelligence, si tu veux qu'à un moment qu'il y ait des Françaises, qu'il y ait des wildcards, c'est que tu regardes qui tu qualifies toi, à qui tu donnes des wildcards.
Écoute-moi.
Est-ce que la France, en intelligence, se dit, bon, je vais accorder quelques white cards quand même aux Anglais, c'est juste après. On va faire échange de bons procédés entre pays qui possèdent des grands chelems. Il n'y a pas une Anglaise qui a été invitée.
C'est
le tournoi qui décide.
C'est pas la question parce que il y a une question de contexte parce que Wim, ça arrive un mois après Roland Garros. Roland Garros, ça arrive 4 ou 5 mois après le premier grand chelem.
C'est comme si une Anglaise avait fini en demi-finale et passait 350e.
Non, c'est comme,
on l'inviterait pas.
C'est comme si Roland arrivait un mois après un grand chelem juste.
Mais regarde qui on a.
Un mois après un grand chelem où il y a une joueuse sortie de nulle part qui fait demi-finale et que les organisateurs de Roland se disaient, oh non, cette petite, on n'en veut pas, ça nous intéresse pas.
Première mondiale, elle est 130e à 6 semaines de Roland-Garros. Et bien, avec son passé à Roland-Garros, elle a gagné l'US Open, elle est bankable, elle prend des millions de dollars en truc. Avec son passé à Roland-Garros, elle n'aura pas de wildcard.
Voilà.
Et parce qu'on va dire, on va pas enlever une Française pour Raducanu.
D'accord, mais moi, mon exemple, c'est si elle avait gagné l'US Open un mois avant Roland-Garros. À Roland-Garros, où fait demi, sortie de nulle part. Tu te dis, mais la nouvelle sensation du tennis mondial, celle qui a ébloui la planète tennis, il y a un mois, on la veut dans le tableau final.
Sébastien Rogge.
Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Julien.
Il commence très, très bien ton entrée.
Ouais, je choisis mon camp direct. Mais je pense que là, on parle du point de vue organisateur du tournoi qui peut se passer ou pas de Louise Boisson, mais si on parle de Louise Boisson elle-même, est-ce que c'est injuste pour elle? Aujourd'hui, elle va faire Wimbledon, mais pas du tout dans les mêmes conditions qu'elle a fait Roland-Garros. Elle va le faire avec de la lumière, avec du média, avec beaucoup plus de pression que ce qu'elle n'a pu faire. Et en fait, c'est pour elle, c'est presque peut-être même une chance de pouvoir commencer tranquille, à faire des matchs sans toute la grosse pression de la deuxième partie du tournoi.
En plus, les qualifs à Wimbledon, c'est vraiment comme ça, parce que ça se joue ailleurs, sur un site, le jardin de Roehampton, t'es tranquille.
Parce que son statut a changé, ça c'est une évidence. Mais en tant que sportive, il faut qu'elle endosse tout ce rôle médiatique, et peut-être que c'est un bon processus pour elle, pour aller le plus loin possible. Maintenant, faut pas qu'elle y laisse trop d'énergie, faut pas qu'elle joue des matchs trop compliqués pour avoir du pep sur la deuxième partie. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis au final, si c'est vraiment un phénomène, elle refera ce qu'elle a déjà fait.
Mais surtout,
Et là, ça deviendra évidemment une joueuse incroyable. Et après, elle remontera dans le classement. Il y aura plus l'histoire de wildcard.
Et une wildcard, c'est pas anodin. Hein. C'est quand on te donne une wildcard, c'est que tu passes le premier tour. C'est de la galette qu'on donne à son joueur, hein, à ses joueurs. C'est-à-dire que dans le tennis, il faut en vivre. Hein, tout le monde n'en vit pas. Et quand tu fais un premier tour de Grand Chelem, tu touches déjà.
À un moment,
entre les relations entre l'Angleterre et la France, je suis organisateur.
Arthur Suisse a eu une wildcard il y a 2 ans. Oui, voilà. Paul Henri Mathieu en a eu une aussi. Donc tu vois, ils sont pas si protectionnistes que ça.
Ah non, les Anglais.
Absolument.
Ils
sont même très généreux parfois.
Plus que nous.
Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, ça dépend des générations. Il y a eu des trucs de fait où il y en a 8 de wildcard. Ils en donnaient 4 ou 5 aux Anglais. Et puis après, ils estimaient, justement, que les Britanniques n'avaient pas le niveau pour jouer Wimbledon. Et donc, souvent, ce qu'ils faisaient, s'il n'y avait pas un ancien vainqueur de Grand Chelem, ou s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait marqué Wimbledon, ils prenaient la liste, les 3 premiers dehors de la liste, et ben, c'était eux qui rentraient. Donc, tu vois, ils sont très pragmatiques.
Ils sont très fiers, donc. Mais c'est ça que tu nous dis.
Bah, ils ont fait 7 et 1, quand même, hein, 7 et 1.
Juste, Eric, est-ce qu'elle a des chances de passer les qualifications?
Oui, elle a des chances, mais,
Écoute, ça va dépendre du tirage au sort, parce que j'ai épluché la liste des engagés. Elle peut très bien jouer au premier tour une fille comme Andreescu. Je vous parle. C'est une fille qui a gagné des grands chelems et qui joue pas mal sur gazon. Maintenant,
La plus grande interrogation, c'est de se voir comment son jeu va s'adapter au gazon et surtout ses déplacements. Elle a quand même eu les ligaments croisés il y a un an et elle a jamais joué sur gazon et on sait que ça peut être compliqué.
Mais en tout cas, Sébastien parlait du Phoenix Boisson. Sachez que, et c'est la première fois, RMC va envoyer quelqu'un à Roehampton pour suivre le parcours de Louise Boisson et pas que de Louise Boisson puisque Lise Cornet fait les qualifs aussi. Donc c'est un vrai Phoenix Boisson. Et on est là.
Hein, ça veut dire quelque chose, mais ce quelqu'un, c'est
non,
toi?
Non, c'est pas moi, non.
Ah oui, c'est pour ça que t'as dit ce quelqu'un avec un dédain.
Mais pas du tout. Je l'envie, c'est Léna qui va y aller. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres médias français qui seront à Roehampton lundi.
Pour les qualifications. Ça, c'est assez extraordinaire et ça fait du bien au tennis et au tennis féminin notamment avec Loïse Boisson ou avec encore Alizé Cornet, la revenante. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
Partagez, comme toujours. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Les GG contre-attaque. Qui a remporté son petit débat, son grand débat? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Julien Beneteau, Olivier Giraud, Pascal Dupraz, Simon Dutin, Sébastien Rogge, le navigateur. On va en connaître un petit peu plus sur toi. Ce sera à 11h30. En tout cas, tu es avec nous, invité des grandes gueules du sport pour partager évidemment notre discussion. Sachez qu'à partir de 11h, nous parlons du Paris Saint-Germain. Le PSG est-il devenu une référence mondiale? Et vous n'êtes pas d'accord, les GG? J'en profite aussi pour vous dire que dans moins d'une heure, il y a le débat caché. C'est un débat caché. C'est le plus grand débat caché de l'histoire des grandes gueules du sport. Je vous propose un débat extraordinaire. Il faut absolument être avec nous. Mais pour l'heure, les GG contre-attaque.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Avant de vous dévoiler le grand gagnant, tout d'abord la 4e place, la cuillère de bois. Djokovic, motivé par les chiffres, 14%. On applaudit Julien.
Bravo, Julien,
pour cette magnifique 4e place.
Alors, je me désolidarise de cette contre-attaque, car c'est une co-contre-attaque faite avec Maxime Abolin, le producteur. Et
très bien.
Donc,
Je retire mes applaudissements. Tu vois, je retire.
Joli.
21% pour est-ce qu'il y a un sens aux tournées d'été? C'était du rugby, évidemment, proposé par Simon Dutin, la 3e place. Simon,
le marronnier. Contrat rempli, on gagne pas, on finit pas dernier.
28% pour Quartararo. Il va gagner bientôt. Mais on en parlera plus tard. 28% pour toi. Ah bah non, tu n'as pas gagné.
C'était pas mal. Tu sais quoi, je comprends pas. C'est-à-dire que le débat de foot, c'est toi qui aurais dû le faire. Et moi, quoi?
Non, mais en fait, j'ai gagné la semaine dernière avec un débat de foot. Donc là, je finis deuxième.
Il n'y a que les débats de foot qui gagnent.
Gagner et faire match nul, c'est top pour moi. Je voudrais pas me désolidariser de Max, parce que c'est avec l'aval de Max que j'ai présenté cette contre-attaque. Merci Max. On continue. Je suis solidaire.
Très bien. En tout cas, sachez qu'avec vos 2%, 28% et 14%, vous auriez gagné si vous étiez rassemblés. Voilà. Là, c'est pas le cas. Et puis, évidemment, Pascal ne peut pas gagner toutes les semaines parce qu'évidemment, pour Pascal, gagner deux fois de suite, ça a été plutôt compliqué. Non.
Vous voulez ma mort?
37%, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Critiqué injustement ou pas? Olivier Giraud, bravo, et c'est à toi de jouer, on t'écoute.
Bah oui, cette Coupe du Monde des clubs qui a fait beaucoup parler sur les temps de jeu, sur la périodicité, le fait que ça soit l'été, la fatigue des joueurs, on a tout entendu sur cette Coupe du Monde des clubs. Mais la vraie question, c'est, elle est critiquée, c'est la première, mais cette Coupe du Monde des clubs, le jour où elle arrivera en Europe, qu'est-ce qu'on va en penser? Quelle place elle va prendre? Parce que je pense sincèrement qu'elle va intéresser, parce que juste avant, est-ce qu'on entendait parler d'un club comme El Ahly d'Égypte, Wahid du Maroc? se dire que il y a un an et demi, nous entendons parler de la Super Coupe d'Europe qui allait arriver. Et finalement, ces clubs n'ont-ils pas déjà gagné? Est-ce que la FIFA n'a pas gagné face à l'UEFA? Parce que cette Coupe du Monde des clubs, en fait, ce qui nous posait question, c'est est-ce que les joueurs vont être motivés pour la jouer? Et finalement, eh ben, on regarde. Regardez le price money pour gagner la Ligue des Champions qui commence de septembre jusqu'à juin et le temps que cette Coupe du Monde de clubs prend et le price money qu'il y a. Ça veut dire que les joueurs sont prêts à la jouer aujourd'hui, cette Coupe du Monde des clubs, et donc c'est une nouvelle ère qui arrive et on va s'y attendre lorsque cette Coupe du Monde va arriver en Europe.
Justement, je prends le pas, tu parles de chiffres. Le PSG, dans toute cette campagne de Ligue des Champions, a remporté environ 150 millions d'euros.
Et si elle gagne la Coupe du Monde des clubs en un mois et demi?
On est aux alentours des un peu plus 100 millions.
Voilà, voilà, on y est. Et ce qui va m'inquiéter surtout, c'est lorsque finalement ces clubs qui voulaient être connus, qu'on ne regardait même pas, même les clubs d'Amérique du Sud. Hein. On parle toujours des River Plate, le maillot, il est beau, mais est-ce qu'on suit vraiment ces championnats? Est-ce qu'on connaît vraiment le niveau de ces championnats? Eh ben, en ce moment, ces clubs sont en train de se tester. On voit vraiment des championnats qui sont vraiment très très bas. Mais c'est surtout, c'est des pays du Golfe qui sont arrivés avec une idée. On va acheter des joueurs. Et on se disait, bah, c'est plutôt farfelu. Ils payent des joueurs très très cher. Eh ben, aujourd'hui, ils sont incorporés à l'intérieur d'un vrai championnat. Est-ce que ces clubs-là n'ont pas déjà gagné? Déjà gagné. Et on le verra d'autant plus lorsque cette compétition arrivera en Europe. Et lorsqu'elle arrivera en Europe, elle sera la concurrente première de la Ligue des Champions. Elle sera la concurrente première de l'intérêt de nos championnats. Et vous verrez que dans les retransmissions,
regardez les prix des prix.
Tu sais une chose, les diffuseurs, à un moment, on ne multiplie pas la manne des diffuseurs. Et quand ça va arriver en Europe, tu verras qu'il y aura des choix stratégiques qui impacteront directement les championnats et le prix de la diffusion des championnats.
Ok, on a 2 minutes, un petit tour de table, ça va pas t'étonner, mais Simon Dutin, comme depuis 9h,
il n'est pas d'accord.
Je n'ai pas d'accord avec toi.
Mais non, mais pour ne pas être d'accord, il faudrait que je comprenne quel est le point de vue développé par Olivier après ce brillant plaidoyer. Enfin, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu cherches à nous faire dire?
Moi, je
comprends
pense
pas.
Que c'est une réussite, en fait. Non, moi, je pense que ce qu'il cherche à nous faire dire, c'est que si là, on la critique, si elle avait lieu à Paris, est-ce que un Benfica Botafogo, on serait pas un peu enthousiasmé au Parc des Princes, du Monde, une fête populaire, etc. Certainement. Après, que les pays du Golfe aient gagné en étant là, les pays du Golfe, la Coupe du Monde des clubs. Je suis pas sûr que ce soit un pays du.
C'est Infantino qui a gagné. Ce sont les sponsors qui ont gagné. Cette compétition, elle a été créée parce que Infantino, il a la folie des grandeurs. Il s'intéresse pas à l'intérêt sportif. Ce qu'il veut,
c'est générer
de l'argent, des revenus. Les clubs saoudiens, évidemment, qu'ils ont gagné au tirage et au grattage. Évidemment, c'est grotesque. Il y a trop d'équipes. Il faut resserrer le format. Et tu parles de l'intérêt que. De l'intérêt que portent les joueurs. Moi, je trouve que les équipes européennes sont en dessous. Elles jouent une tournée estivale.
C'est les poules.
Et les clubs sud-américains, eux, ils sont en plein milieu de leur saison. Ils ont ajouté un pseudo-complexe d'infériorité qu'on leur colle parce qu'on a notre vision très centrée, européano-centrée. Ouais. On se dit, c'est des pimpins, ils ne savent pas jouer au foot. Ils ont des revanches à prendre. Ils veulent montrer et ils sont remarquables en termes d'intensité, d'effort et le contenu de leur match est exceptionnel. Mais je trouve que les équipes européennes ne sont pas au niveau, qu'on ne voit pas des matchs de grande qualité et que cette compétition, pour l'instant, elle n'a pas livré de matchs extraordinaires.
Vous savez quoi, les amis?
La vieille Europe va bouger.
On ne peut pas répondre tout de suite.
Hein. Alors, mais toi, Pascal, si en quart de finale, tu as de nouveau.
On ne peut pas répondre, Jean-Christophe.
PSG et Chelsea, il n'y aura aucun intérêt. C'est la Ligue des Champions, l'intérêt. Les amis, vous savez quoi? On n'a plus le temps pour faire ce débat. On va parler du Paris Saint-Germain dans quelques instants. Donc, ça va peut-être pouvoir se rejoindre, ok? Mais sachez que demain, nous aurons un débat, je vous le garantis. Sur la Coupe du Monde des clubs, ok? Julien, bien. Pascal, tu seras là aussi, comme ça tu pourras y répondre. Sur la Coupe du Monde des clubs, est-ce que vous êtes enfin emballé? Ok les amis, t'étais déjà en train de souffler, Julien.
Non.
Je te donne le programme en avant-première.
Je voulais juste te dire bravo Olivier, je souscris à ce que tu as dit.
Très bien, pour une fois vous êtes d'accord et ça me ravit. 10h56, on se retrouve dans quelques instants les amis. Le PSG est-il devenu une référence mondiale? On se posera la question avec les GG, avec Sébastien Rogue évidemment, notre skipper ce matin avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.